À la question de Benjamin.
Alors, la question c'était, c'est quel sera le processus après la mort physique? Qu'est-ce qui va se passer avec la Neshama? Où elle va aller? Comment ça va se passer? Ça va être quoi les étapes qui vont se dérouler avant la mort?
Là-bas, donc le monde à venir. Ok, c'est une question très intéressante. Alors d'abord, tu poses la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Il faut définir c'est quoi la mort. La mort, au niveau de la halakha, on considère la mort le moment duquel on peut, par exemple, avec autorisation de la famille et du défunt, prendre des organes pour sauver quelqu'un d'autre. On peut le faire qu'une fois que le corps est complètement mort. Donc on considère à cet égard qu'il faut que le cœur soit arrêté. Le cerveau, l'excitation cérébrale soit arrêtée depuis 30 secondes. Seulement après, on commence la mort physique. Mais le Zohar nous dévoile que la mort commence bien avant. Elle commence 30 jours avant le décès, à la seconde même. On a le Tselem qui quitte. Qui nous quitte, c'est que le Tselem. Tselem, c'est l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est? J'ignore. Mais c'est une réalité spirituelle que les grands tzadikim voient. Je raconte une histoire qui pourra illustrer cela très très bien. J'ai même deux histoires qui illustrent cela très très bien. Même trois histoires qui illustrent. Alors, la première histoire, c'était. Il y avait un grand rabbin, peut-être le plus grand de la génération passée, le Stipler, le Rav Yaakov Israël Kanievski, le père de Rav Chaim Kanievski, un des grands de la génération. Et il y avait un homme qui est un habitué de la maison, qui venait très souvent, un habitué, un ami du Rav, qui venait très souvent le voir. Et le Rav était complètement myope, hein, il disait comme ça. Il le reconnaissait toujours. Et un jour, il rentre et il dit « Qui vous êtes ?»« Alors, qui je suis ?»« Qui vous êtes ?» Il n'est pas reconnu. Il y a son nom. Ah, d'accord, ok. Dans les 30 jours qui suivent, le type, il est décédé. C'est-à-dire que le Stipler était un myope, c'est vrai. Il voyait très, très, très loin. Il présentait une liste de personnes pour des brachot. Lui, il ne faisait pas de bénédiction pour quelqu'un qui n'était pas shomer Shabbat. Il ne fallait pas oser mettre un nom de ce type-là dans la liste. Il n'est pas shomer Shabbat! Deuxième histoire. C'est celle de Rabbi Shmuel Bar Yochai. Rabbi Shmuel Bar Yochai, c'est marqué à la fin de la Hydra, que Hydra c'est une partie du Zohar, que je ne me souviens plus des noms, c'est Rabbi Yehuda, se lève un jour très triste. Et voilà Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, je t'en prie, occupe-toi de mon fils. Je te demande que tu l'occuperas, tu l'amèneras au Talmud Torah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qui. Ben, j'ai vu que mon tselem est parti. J'ai vu que mon tselem est parti, donc mon image de Dieu. C'est-à-dire que je vais mourir incessamment sous peu. Rabbi Yossé lui dit, allez, 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 allez. Viens, viens, on va voir notre Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. Ouais, ils prennent la route, ils avancent. Et près du 30e jour, ils arrivent à Meron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rashbi est en train d'étudier, et par la fenêtre, il voit trois personnes. Il voit Rabbi Yossé, il voit Rabbi Yehuda, et sur Rabbi Yehuda, il voit l'ange de la mort. Il se met à la porte et dit, celui qui a l'habitude et l'autorisation de rentrer chez moi, qui rentre, celui qui n'a pas l'habitude ni l'autorisation, qui ne rentre pas. Rentre Rabbi Yossé, rentre Rabbi Yehuda, et l'ange de la mort reste dehors. Bon, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda raconte l'histoire à Rabbi Shimon, il dit, bon, va te reposer un peu. Il va se reposer et il s'endort. Il s'endort et pendant ce temps, Rabbi Shimon est en train de prier. Et dans le sommeil, Rabbi Yehuda, donc celui qui devait mourir, d'abord il pleure, après il sourit, à la fin il éclate de rire. Après il se réveille. Alors Rabbi Shimon dit, pourquoi t'as pleuré, pourquoi t'as souri, pourquoi t'as éclaté de rire? Il dit, j'ai pleuré parce que j'ai vu que je montais au Olam Haba et je voyais mes parents, toute ma famille, et je comprenais que voilà, le moment était bientôt venu, que je devais quitter ce monde-là et aller là-haut, recevoir ma place. Après, j'ai souri parce que mon père m'a dit, écoute, je crois, quelque chose qui se passe là. Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de faire, il y a tous les mondes qui sont en train de trembler. La prière de Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de faire des effets. Je crois que les gens sont... Il y a des histoires, je sais pas, c'est pas clair ce qui se passe. À la fin, j'ai éclaté de rire parce que j'ai vu le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui faisait les 100 pas. Il faisait les 100 pas devant. Il disait, c'est pas possible, l'heure est arrivée. Rabbi Shimon, on peut rien faire avec ce truc-là. Il nous dérange dans le travail. Et à la fin, il y a eu un décret comme quoi c'était remis. Et l'ange de la mort est parti en claquant la porte comme ça, furieux, avec ce Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut plus faire son travail. Comme une fois, là, j'ai éclaté de rire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, effectivement, maintenant, je suis garant pour toi. Et sache, le jour où je pars, tu pars aussi avec moi. Pardon, c'était Rabbi Traknapacha. C'était le nom du Rav. Pour que je me rappelle, parce qu'effectivement, le Zohar raconte que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était agonisant, on a dit, allez, dites à Rabbi Traknapacha qu'il ne se prépare parce qu'on quitte ce monde-là. Et effectivement, Rabbi Traknapacha est enterré à 10 mètres de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une tombe un peu inconnue. Quand on rentre sous un portique, comme ça à droite, il y a la tombe d'Rabbi Traknapacha. Donc c'était une deuxième illustration, comme quoi il y a le Tselem. Troisième, ça aussi, c'est dans la Hydra, le Zohar qu'on lit la nuit de Hoshana Rabba. C'est marqué qu'on peut sortir la nuit de Hoshana Rabba et regarder, le Zohar appelle cela l'ombre de l'ombre. C'est le Tselem. Il y a des gens qui vont, à la lumière de la lune, ils peuvent voir l'ombre de l'ombre, et ils te disent, si tu vois que ta tête n'est pas là, c'est que tu ne files pas l'année. Si tu vois que ton bras n'est pas là, alors c'est que tes enfants ne seront pas... Et chaque chose, il explique, le Zohar explique, qu'est-ce qu'on peut voir, qui, quoi, comment, etc. Donc on peut, à l'avance, donc on voit que le Tselem, donc il nous quitte avant. C'est que la mort, ce n'est pas comme la vie rentre. La vie ne rentre pas d'un coup. Il y a la fécondation. 40 jours après la fécondation, il y a une partie d'âme qui rentre. Il y a déjà une partie d'âme à la fécondation. On n'a pas le droit d'avorter aussi avant 40 jours. Mais dès 40 jours, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, déjà, une partie d'âme beaucoup plus conséquente qui rentre. Donc, les médecins ont remarqué que c'est exactement 40 jours après la fécondation, donc le 40e jour de gestation, que commence l'activité cérébrale. Ça correspond à ce que disent Chazal. Après, il y a la naissance. Après, il y a la Brit Mila, où il y a une partie d'âme supplémentaire qui vient. Après, chaque année, à la Bar Mitzvah, tu reçois le Ruach. Après, chaque année, et à 20 ans, tu reçois la Neshama. Et comme ça, chaque année, on reçoit des suppléments de partie spirituelle. La mort se fait aussi de façon dégressive. Alors, comment ça se passe? 30 jours avant, c'est le Tselem qui part. Après, il y a la mort, c'est la mort. Après la mort, il y a une partie d'âme qui reste encore ici. Énorme. C'est marqué que l'âme ne peut pas quitter le corps. Tant qu'on ne l'a pas enterré. Quand on enterre, il y a, hop, une partie d'âme qui part. Et là, ça part pas très facilement. Il y a ce qu'on appelle Chibout HaKever. Donc, c'est dans notre programme, d'accord, qui est un premier programme, s'appelle Chibout HaKever. C'est Chibout HaKever. C'est séparer l'âme du corps. Alors, de façon imagée, le Zohar, il dit qu'il y a quatre anges qui viennent et qui commencent à prendre dans la tombe, d'accord, ils prennent le corps et ils le secouent comme ça pour que l'âme se dégage. Ça veut dire que, en façon plus moderne de dire, on va dire, qu'il y a une sorte de séparation qui doit se faire entre l'âme et le corps, qui est très pénible pour, ça dépend pour qui. Alors, la Gemara, elle dit qu'il y a 903 sortes de morts. Il y en a qui sont kemishral benita mehalba, comme sortir un cheveu du lait. T'as un verre de lait, et donc t'as un cheveu qui flotte. Comment tu fais pour l'enlever? Tu mets ton doigt comme ça, tac, il se colle à ton doigt. C'est une mort facile. Et là, que c'est comme la plus dure des 903, c'est comme t'as du coton à l'état brut, d'accord, qui est pris dans des ronces. Et tu dois maintenant sortir le coton des ronces. Alors, déchirement terrible. À quel point la personne, elle était branchée à son corps? Le moindre effort qu'on demande, ce qu'on appelle une souffrance à son corps, il ne peut pas supporter. Quand on parle du corps, ce n'est pas forcément au niveau physique. T'as la partie métaphysique qui est quand même physique. Les honneurs. Le fait guili-guili, il s'énerve. C'est un type qui n'est pas branché là où il est branché ici. Alors comment tu veux maintenant dégager son âme? Son âme ne comprend qu'elle est, Il mange le nez dans les spaghettis. Est-ce que quelqu'un mange des spaghettis comme ça? C'est pas possible. Il met la tête au-dessus et... D'accord? Il est dans les spaghettis. Donc les envies de ce monde, nourriture, reproduction, kavod, les yeux, tous les organes, d'accord? quelqu'un qui avide de ce monde-là, quand on lui dit maintenant, ok, maintenant, toi, tu quittes le corps, quoi, moi, je quitte le corps, moi, je suis le corps. Or, on n'est pas le corps, on a un corps. On a un corps, il y a moi qui a un corps. Mais quand je ne comprends pas que j'ai un corps, mais je suis mon corps, alors la séparation est très difficile. On appelle ça Chebut HaKever. C'est la première opération pénible qu'il y a.
Et c'est au bout de combien de temps après?
Alors, ça se fait immédiatement, dès que le corps était enterré. Maintenant, ceux qui ont la chance d'être enterrés, après Chatzot, après le milieu de la journée, quand le soleil est au zénith, du vendredi, jusqu'à le Chatzot de Motse Shabbat, la sortie de Shabbat, il faut compter le milieu de la nuit. C'est quand le milieu de la nuit, c'est exactement 12 heures de 60 minutes, après le moment où le soleil est au zénith. D'accord ? C'est donc minuit, le minuit juif, ou le midi juif. Donc, toutes ces périodes-là, il y a encore la lumière de Shabbat. La lumière de Shabbat, pour ceux qui sont chômeurs Shabbat durant leur vie, elle est tellement grande, cette lumière de Shabbat, que l'âme, zip, elle quitte le corps sans qu'il y ait besoin de la secouer. C'est un mérite d'être enterré à ces moments-là. On ne retardera pas en aucun cas un enterrement pour enterrer quelqu'un à ces heures-ci. La souffrance d'un corps qui n'est pas enterré, elle est terrible. C'est un lave de roi et on n'a pas le droit de laisser quelqu'un non enterré. On le fait que dans des cas extrêmement rares, parce que c'est vraiment pour l'honneur de la personne. Il manque maintenant, on veut par exemple un grand rabbin, on va laisser peut-être, on peut l'enterrer la nuit, le soir, comme ça, à 11h du soir, on tente le lendemain matin pour que tout le monde vienne et il y ait des espédim, des oraisons funèbres comme il faut bien. Ou les miskédim qui habitent l'étranger, que des fois c'est 5 jours pour amener un corps il était décédé vendredi, samedi, dimanche c'est fermé, lundi l'employé est arrivé en retard, il a donné son autorisation, autopsie, machin, mardi, hein, une place dans l'avion, mercredi on l'enterre, passe une semaine qui est passée, d'accord Terrible, c'est une très grande souffrance pour le corps. Donc on n'a pas le droit pour gagner le Chibout HaKever d'être enterré avant Shabbat ou juste après Shabbat, de retarder l'enterrement d'un corps. Oui.
Un corps qui a déjà été enterré. Est-ce que c'est pareil si on veut le déterrer pour le changer de pays? Est-ce qu'il y a de la souffrance?
Non. Déterrer un corps. Amener les ossements de quelqu'un qui est déjà décédé, toutes ces opérations sont déjà finies. Lui, il est là-haut, il n'y a que les os qui sont là, les os avec un petit... Qu'est-ce qu'il y a sourd?
C'est absurde de déterrer un corps.
Pour rien. Parce qu'il y a une partie, je vais parler maintenant, il y a une partie d'âme qui reste dans les eaux toujours. De cette partie, il y aura la résurrection des morts. Donc on ne peut pas maintenant, il y a un caveau des métiers, mais on ne peut pas, il y a un honneur, un respect des morts, absolument. Mais quand tu déterres un mort pour l'amener en terre d'Israël, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand on aura la résurrection des morts, ceux qui sont enterrés à l'étranger arriveront ici par sous la terre. Alors, faut aussi la résurrection des morts, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est, d'accord? Il ne faut pas croire, c'est marqué clairement dans les livres, c'est pas le... Bon, on va y arriver, hein, mais ne croyez pas que c'est tout simplement, en tout cas, les tombes qui s'ouvrent, tac, et t'as des fantômes qui sortent, Frankenstein, c'est pas...
Il vaut mieux donc enterrer en Israël, puis ensuite ramener le corps, ou...
C'est toujours mieux d'enterrer en Israël.
Donc on peut attendre un jour.
Parce que c'est marqué, « Verkiper admato amo », la terre d'Israël, elle, quand on est enterré en Israël... Ça a une faculté d'expiation des fautes. Le mieux, c'est de mourir en Israël. Si tu n'as pas la chance de mourir en Israël, alors tu te fais enterrer en Israël. Tu n'as pas la chance d'être enterré en Israël, tu te fais enterrer à l'étranger, mais c'est bien, au moins pour la résurrection des morts, que le corps soit amené, les ossements soient amenés ici en terre d'Israël. Donc on était à Chibout HaKever. Après, qu'est-ce qui se passe? L'âme va être jugée. Mais quand on parle d'âme, il faut comprendre qu'on a plusieurs âmes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et des parties d'âme qui montent directement, et des parties d'âme qui sont encore dans ce monde-ci. C'est marqué que du moment que la personne est enterrée, commence le deuil des 7 jours. C'est marqué 3 jours de pleurs, et après 4 jours de deuil. En plus des 3, ça fait 7 en tout. Mais Chazal ont bien dit qu'il y a 3 et 4. C'est pas pour rien qu'il y a 3 et 4. C'est pas parce qu'on dit 3 jours, tu peux pleurer, puis après pas. Ça correspond en fait à ce qui se passe avec l'âme. Pendant les 3 premiers jours, l'âme se trouve encore au-dessus de la tombe. Après les 4 jours supplémentaires, elle commence à faire un voyage entre la tombe et la maison où elle habitait et où a d'habitude a lieu aussi la Shiva, les 7 jours de consolation. Après, il y a 30 jours de deuil, on ne peut pas se raser, on peut pas, etc., etc., etc. En tout cas pour les parents. Il y a des lois différentes si c'est les parents ou si c'est les autres, si c'est les parents, donc les papas et mamans, ou si c'est d'autres parents, tels que frères, sœurs, enfants, etc., et femmes. Là, pendant ces 30 jours, alors l'âme, elle voyage entre en haut et sa tombe. Et après 30 jours, elle part complètement. Il reste encore une partie durant toute l'année sur la tombe. Et après 12 mois, là, de façon définitive, toutes les parties montent en haut. Il ne reste qu'une petite partie dans un os qui se trouve au niveau de la nuque, qui a trois noms. Luz, Betuel, Niskoï. Une petite partie d'âme, d'accord ? Une petite partie, c'est une charge spirituelle à partir de laquelle il y aura la résurrection des morts. Et cette partie d'âme n'est nourrie. Quand on se nourrit, nous, on ne se nourrit pas que de physique, on se nourrit aussi de métaphysique. C'est pour ça qu'on fait une bracha, pour ce qu'il y a la loi du kashrout, tout cela concerne les charges métaphysiques, les charges spirituelles que contient la nourriture. On a fait un cours il y a quelques années là-dessus. Pourquoi elle commande la kashrout ? Quand tu manges, tu te nourris d'étincelles spirituelles aussi. Ces étincelles nous donnent la puissance, pas la puissance physique, il faut aussi une puissance spirituelle. Cet os-là n'est nourri que par le repas qu'on mange Motsé Shabbat, Seouda Revit. Il est important de manger Seouda Revit, sinon tu te lèves au Olam Haba, résurrection des morts, tout maigre. Ou presque inexistant, si tu n'as jamais fait. D'accord ? Bon, cette résurrection des morts, comme j'ai commencé à dire auparavant, c'est le corps qui se lève. Mais qu'est-ce que c'est que le corps ? Le corps, ce n'est pas la viande. Ce n'est pas les os. Le corps, c'est la partie, ce qu'on appelle la vie. Il y a en moi une partie spirituelle qui fait qu'il y a une différence entre un corps. Tu prends un corps de chien. Bon, le chien, il n'a pas une neshama, il a un chien vivant, un chien mort. Il y a une différence entre les deux. C'est quoi qui fait que le chien, il est vivant ? On appelle ça le nefesh. D'accord ? On appelle ça, même pas le nefesh, il y a une différence entre, je répète, on a une différence entre un chien vivant et un chien mort. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Cette chose qu'on appelle la vie, ça s'appelle le corps. Quand Chazal dit le corps, en tout cas quand on parle du corps qui se lève, résurrection des morts, c'est marqué clairement dans les livres que c'est pas le corps, la viande, elle est pourrie, terminée, les vers l'ont mangé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est le corps spirituel qui fait qu'on vit. Ce corps spirituel, il se relève, il revit. Il y a un renouveau de vie à ce qui s'appelle la résurrection des morts. Comment ça se passe? Très bientôt, Machar vient. Machar, c'est-à-dire qu'il y aura un roi, qui soit un roi d'ordre divin, ou un, par un prophète, et qui sera le roi d'Israël, et qui va faire que le monde entier connaisse Dieu. À son époque, il y a discussion, est-ce que le monde va changer ou pas? Discussion entre Shmuel et Chachamim dans la Gemara. Maïmonide a tranché comme Shmuel que rien ne change, le monde continue normalement, à part bien sûr qu'il y aura la paix entre, il y aura la paix entre les peuples, il y aura la connaissance de Dieu, il y aura beaucoup de bien dans le monde, mais il n'y aura pas de miracle extraordinaire. Les Rahamim disent que non, tout va changer, il y aura des miracles extraordinaires, et comme ça tranche le Rahavad, Rabbi Avraham ben David de Poskir. Donc Maïmonide et Rahavad, Marloket. Qui a raison? Je pose la question à un des grands de la Torah il y a 20 ans, il m'a dit quand ma chair viendra, on saura. Ça dépend aussi comment ma chère qui vient, par notre mérite ou pas par notre mérite, à la date limite dernière, ça vient d'habitude, il n'y a pas trop de miracles, ou bien ça vient par notre mérite, c'est beaucoup plus miraculeux, Bérat Hachem, très bientôt. Après, il y a une période de 40 ans. Dès que passe cette période de 40 ans, le monde va aller en se sanctifiant de plus en plus, va commencer la période qu'on appelle la résurrection des morts, et qui dure très longtemps, qui dure plus d'un siècle. Qu'est-ce que c'est résurrection des morts? Tout simplement, on va revenir à l'état antécédent du péché originel. Le premier homme, il avait un corps de lumière. Quand il a péché, Dieu lui a fait un corps de peau. Coute note, or. Or avec Aleph, c'est lumière. Or avec Aïn, c'est peau. On a changé Aleph pour Aïn. Donc on aura un corps de lumière. Le premier homme a péché, il est descendu. Matérialisation. Grossière, corps, de peau, de chair. Nous, on va faire maintenant le travail en sens inverse. On va se sanctifier par la Torah, la connaissance de Dieu. Et quand tu arrives au niveau où tu es suffisamment saint, tu reçois du Chevra Kadisha, je pense, ou de la Rabbanout, un avis, cher monsieur, dans le ciel, je remarque que déjà un niveau de sanctification suffisant pour faire vos testaments. Préparez-vous, la semaine prochaine, à 11h30, vous passez, vous faites une transposition, métamorphose, vous transformez votre corps de peau en corps de lumière. Et on fera un grand festin, et voilà, les premiers à transformer sont les gens les plus saints. Puis tu auras les gens très grossiers, ça reprendra un siècle, d'accord ? Les derniers, qui eux vont à la fin, tout le monde sera déjà, tous leurs copains sont déjà en tant que lumière, ils font la fête en lumière, lui encore avec son corps grossier, en train de manger, en train de dormir, en train de... D'accord ? Alors que, viens, qui font lumière, là, qu'est-ce que tu es dans, tu restes dans ton corps de peau. Maintenant, les morts qui sont morts déjà, eux aussi vont revenir sur Terre, ceux qui méritent, bien sûr, pas tout le monde revient, dans un corps de lumière. Il n'y aura que de la lumière.
Ils ne sont pas bien au Gan Eden ?
Ils sont moins bien qu'ici. C'est-à-dire, ils sont très bien, mais Dieu veut, le but de toute l'opération, c'est sanctifier, on veut qu'il y ait un Kiddush Hashem, une sanctification de Dieu. On veut que Dieu soit très grand aux yeux de qui ? Pas des anges, aux yeux du monde le plus bas qu'il puisse y avoir. Donc Dieu a créé un monde qui est bas, et Dieu descend dans ce monde, sanctifie ce monde, et fait tout remonter. C'est le grand cadeau que Dieu fait. Donc l'opération, c'est revenir ici, dans des corps, là, et là, monter et faire remonter tout. Le paradis, dans lequel sont les Neshamot en attendant, on appelle ça Olam HaNeshamot, le monde des âmes, c'est un très beau paradis, mais c'est une salle d'attente. C'est pas le but. Le but de l'opération, c'est après revenir ici et tout monter, après s'unir complètement dans la divinité. Ça, c'est rentré dans le 7e millénaire, et après il y a 8, 9, 10, jusqu'à infini. Infini. Parce que Dieu est infini, on va se rapprocher de Dieu à l'infini. Infini. Le bonheur. Rapprochement de Dieu, c'est très kiffant. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. On dit qu'à l'époque messianique, chaque jour sera plus intense que le jour d'avant, 24 fois plus. Alors, je ne suis pas bon en maths, mais fais le calcul sur une semaine, tu arrives pas mal de zéros. Bon, pour une année, on ne sait pas où on en est. Et comme ça pour l'infini. Alors, l'époque messianique, il y a encore du libre arbitre. Beaucoup moins, mais il y a. Mais dès qu'il y a le grand dévoilement de Dieu, la résurrection des morts, là, c'est fini. Là, on est déjà dans un état de... On ne mange que les fruits de notre labeur passé.
Attends, ce que vous avez dit, c'est ce que les Juifs, et les aussi, ils ont suivi ce processus de...
Il y a Chassid Omot Olam qui ont une part Olam Abba, c'est certain. Et Goïm aussi ont une part Olam Abba. Comment ça se passe exactement? J'ignore. Alors, on est à Chibouta Kever. Après, alors on s'est rejugé. On s'est jugé. Et là, c'est terrible. Qui nous juge? Alors c'est marqué que ce sont les grandes générations, de notre propre génération, qui, eux, ont su quelles étaient les conditions de vie ici, qui peuvent nous juger intelligemment. Bien sûr, avec la présence de Dieu, les anges, etc. Et on te fait passer en vidéo, virtuelle, toute ta vie. C'est marqué avant de mourir, j'en vois tout cela. Et on voit, et chaque petit détail. Il y a des gens qui sont venus de là-bas, qui ont raconté. Chaque petit détail minuscule que vous avez oublié, sur ça aussi. Sur les grands et sur les petits. Dieu est juste. Après, il y a plusieurs solutions. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous raconter un peu tout cela. Ceux qui veulent voir plus, il y a un livre ici qu'on a ici, c'est Reshit Chochma. D'accord, c'est un livre écrit par un des grands Kabbalistes de Tzfat, Rabbi Eliyahu de Vidash. Et il y a plusieurs traités. Traité Enfer, traité Chebuta Kever, un traité Kafakela, traité, beaucoup de traités. Alors, celui qui a transgressé des péchés, qui, chaque personne, d'après sa source d'âme, ce sont des péchés différents. Quel était son job sur Terre, pourquoi, pour qui, comment, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a certains péchés pour chacun qui méritent de revenir en réincarnation. C'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. Alors, quand on est réincarné, comme je l'ai dit dans un cours dernièrement, on peut être réincarné dans du minéral, végétal, animal impur, animal pur, goy, juif. Juif en bonne santé, juif en mauvaise santé, toutes ces sortes de... pour des périodes plus ou moins longues. Ça, c'est réincarnation. Celui qui mérite de ne pas être réincarné, alors il reçoit son billet... Ah non, il y a une chose qui est pire aussi. Ben ça, c'est Kafakela. Kafakela, c'est le type qui était très... Il ne mérite pas de rentrer là-haut. Pas encore. Alors, il a, c'est marqué que il Kafakela, c'est carrément Kaf, la cuillère, le creux, qu'il a de la fronde. comme une fronde, c'est qu'on le prend et on le fait gicler d'un bout du monde à l'autre. Il est poursuivi par les choses négatives qu'il a faites. Quand on fait une chose négative, c'est une puissance de mal, c'est désagréable, c'est mauvais. Quand tu vois la vérité, c'est une tâche terrible. Et ça te dérange terriblement, et tu es assailli par cela. Et comme ça, tu aimerais pouvoir rentrer dans ce monde-ci, tu peux pas. Tu as envie de ce monde-ci, tu aimes bien les femmes, tu n'as plus le corps maintenant, tu aimes bien manger, tu n'as plus le corps, tu aimes bien ta BMW, tu peux plus, fini. Donc, c'est les personnes qui sont très branchées à ce monde qui ne peuvent pas monter. Jusqu'au jour où Dieu dit, ok, c'est bon, chut, il monte. Il monte, et là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas encore le paradis. C'est le billet pour le paradis. Ça s'appelle, on appelle ça l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que c'est chaud. Et c'est censé durer maximum 12 mois. À part les cas spéciaux, qui c'est marqué, c'est infini, que l'enfer un beau jour s'arrête, tous les démons là-bas avec le chaudron, d'accord, ok, fini le job, on ferme l'enfer, closed pour toujours, c'est, et eux continuent. Alors c'est marqué Genam Kalev et Enam Kalim. L'enfer s'arrête et eux ne s'arrêtent pas. Ils font des années en plus. Mais c'est marqué dans le livre de Mystique Jude que pour finir quand même à la fin, tout le monde arrive à son. Au tikkun. Normalement, pour les pires, d'accord, à part les cas spéciaux, c'est 12 mois. 12 mois, et il y a, paraît-il, 7 degrés. Chaque degré étant 60 fois plus difficile que le degré au-dessus. Tout cela, messieurs, je ne vais pas vous mettre, parce que c'est la question qui était posée, c'est pas très réjouissant comme programme. Mais plusieurs réponses. D'abord, l'être humain, l'âme, quand elle voit la vérité, elle a envie d'être épurée de ses tâches. Comme si tu es malade, on fait une opération pour et tu sens qu'on t'enlève tout le mal, ça te fait très plaisir. Quelque part. Ça te fait mal à la fois. Mais tu sais, t'es en train de t'enlever tout le... Secondo, il faut faire tchouva avant. Quelqu'un qui fait tchouva avant. Chazal on dit, amuse-toi, fais les bêtises toute ta vie, fais tchouva le jour de ta mort. Alors ça marche, tchouva c'est un truc qui marche. Agonisant, tu fais tchouva, ça répare énormément. Troisièmement, il y a un élève du Gaon de Vilna qui a lu Rachid Chochma, tous ces traités dont je vous ai parlé auparavant, et est tombé malade de dépression. Le Gaon de Vilna est venu le visiter, lui a dit, tout ce qui est marqué dans ce livre est absolument vrai. Mais sache que c'est ce qui se passe après la mort. Et après la mort, on te juge. Pour un péché, dans les conditions où tu n'aurais jamais souffert pour ce péché. Mais si maintenant tu as souffert déjà dans ce monde, un tout petit peu de souffrance dans ce monde-là, il équivaut à des milliards de souffrances dans le monde à venir. Et qui ne souffre pas dans ce monde? C'est pour ça que les gens, avant de mourir, Dieu, dans sa grande miséricorde, les fait souffrir. Pourquoi les gens sont malades avant de mourir? Pourquoi? Qui avait fixé que ça devrait être comme ça. Ben c'est normal, il est malade, il est vieil, il est agonisant. Non, c'est, rien n'est normal. Ça recette une bonté de Dieu, que Dieu maintenant nettoie un peu avant qu'il arrive là-haut. Mieux vaut nettoyer ici, mille fois plus que là-bas. Ceux qui ont passé tout cela, ou qui n'ont pas besoin de passer tout cela, ils rentrent dans Gan Eden Atarton, le paradis inférieur. Et tu as un certain, avec le temps, avec les années, avec etc., tu montes. Tu montes en fonction de quoi? En fonction des mitzvot que tu as faites. Mais plus tu montes, plus les mitzvot que tu as faites doivent être pures. Tu as déjà quelque part épuisé le mérite des mitzvot que tu as fait, les mitzvot que tu as fait pour l'argent, pour le kavod, tout. C'est vrai que la Torah, elle a une faculté de sortir de l'enfer. Automatiquement, mitzvot souka aussi. Mais, même une Torah qui est faite pas les Shem Shamaim. Une Torah qui est étudiée uniquement dans un intérêt pas bon, pour de l'argent, pour l'honneur, pour je ne sais pas quoi, suffit déjà, tellement le mérite de la Torah il est grand, de sortir de l'enfer. Après, pour monter de monde en monde, là, il faut déjà qu'il y ait une pureté de la mitzvah, à quel point ça a été fait avec amour de Dieu, avec joie, avec pureté, sainteté, etc. Des fois, tu arrives à un certain degré, et puis on te dit, ok, mon vieux, voilà, fini. Tu restes là. Oh, tu continues, tu as une petite montée, mais lente, d'accord. Parce qu'il y a une montée. Il y a une montée aussi qui est faite grâce au fruit des mitzvot qu'on a fait. Chaque année à Rosh Hashanah, Dieu juge les vivants et les morts. Qui a jugé les morts? Ils ont déjà été jugés. De tous les fruits de ce qu'ils ont fait. Quelqu'un qui éduquait un enfant maintenant, son fils, et son fils maintenant, il fait des mitzvot, il va dans la voie de la Torah, quelque part, ça lui fait des il est bénéficiaire, le père, c'est certain. Attends, t'es les fils. Les gens, une fois, t'as fait un sourire à quelqu'un, à cause de ça, il a commencé à bien aimer les religieux, ce sourire, et maintenant, grâce à toi, donc, quelque part, t'as aidé à être religieux, et tout ce qu'il fait, maintenant, comme ça, ça revient. Ou le contraire. T'as fait rire la chaîne, genre, t'as vu ce religieux, à cause de ça, maintenant, quelqu'un a hésité, il est plus venu à l'échive à cause de cela, et tu payes aussi pour ça. Eh ben oui, mon cher. Donc, chaque année, il y a un compte qui se refait. Au bout d'un moment, tu dis, ok, voilà, moi, maintenant, j'aimerais plus. Alors, des fois, les Neshamot peuvent revenir, même après beaucoup, beaucoup de temps, des grandes tzadikim reviennent ici, un peu dans ce monde-là, pour refaire encore un peu plus, ou en Hibour Neshama. Hibour Neshama, qu'est-ce que c'est? Ils rentrent dans le corps de quelqu'un pendant sa vie, et ils l'aident à faire des mitzvot. L'avantage, c'est qu'il est bénéficiaire des mitzvot que fait la personne, mais si la personne fait des averot, lui, il n'est pas associé aux averot. Donc, il ne peut être que bénéficiaire. Ça, c'est le Hibour, c'est le chesed que Dieu a fait, pour que l'humanité puisse monter. Sinon, jamais l'humanité aurait pu être corrigée. Jamais, parce que les gens venaient en Gilgoul, sans cesse, ils retomberaient sans cesse. Non, grand Neshama, c'est qu'il est déjà venu, il y a le Gilgoul, on revient en tant que grand Neshama. C'est une grande Neshama, le Gilgoul, c'est depuis le jour de la vie, le jour de la naissance, jusqu'au jour de la mort. Hibour Neshama, c'est pour une période qui peut être courte ou longue. On reçoit Hibour Neshama quand? Dans le sommeil après la Daf Shabbat. On dort toujours très bien après cela. C'est ce moment que les bourneshama rentrent. Bahou Khadonai, alors maman.